Radio Okapi. Grande interview.
Les crimes répertoriés à Yumbi pouvaient constituer des crimes contre l'humanité, des meurtres, des tortures, des viols et d'autres formes de violences sexuelles, ainsi que des persécutions. C'est ce qui ressort du rapport publié mardi à Genève, en Suisse, par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport détaillé sur les horreurs qu'a connues la province de Maïndombé en décembre 2018 appelle à des mesures pour poursuivre les responsables et éviter de nouvelles effusions de sang. Pour en parler, Grande Interview reçoit le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Abdelaziz Tchoy. Avec lui, nous allons décrypter ce rapport, la méthodologie appliquée pour établir les faits, ainsi que les différentes recommandations formulées. Produite avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Tina Salama, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs des Radio Okapi, bienvenue à Grande Interview, votre émission hebdomadaire. Nous recevons dans ce numéro M. Abdelaziz Tchoy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Avec lui, nous parlons du rapport publié mardi dernier à Genève sur les atrocités à Yumbi. M. Abdelaziz Tchoy, bienvenue dans Grande Interview.
Bonjour.
Avant toute analyse, votre portrait avec Tina Salama.
Portrait.
Nommé directeur du Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies en République démocratique du Congo, RDC, en septembre 2017, Monsieur Abdelaziz Tchoy a servi les Nations Unies à des fonctions et dans des pays différents depuis 2005. Monsieur Tchoy a exercé les fonctions de conseiller principal en droits de l'homme, HCDH, au Mozambique de 2015 à 2017, et puis directeur adjoint du BCNUDH en RDC de 2013 à 2015, chef de la division des politiques publiques et du renforcement des capacités pour les droits de l'homme, un chef du bureau régional avec la MINUSTAH de 2008 à 2013 et spécialiste des questions de justice et des droits de l'homme à la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Burundi de 2005 à 2008. Avant de rejoindre les Nations Unies, il avait acquis une grande expérience auprès d'ONG internationales comme directeur de programme avec l'ONG américaine Search for Common Ground au Burundi de 2003 à 2005, puis responsable de programme Justice pour tous avec Avocats sans frontières Belgique au Burundi toujours, assistant de programme Afrique et Justice internationale pour la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH en France de 1998 à 2001, conseiller juridique de l'ONG nationale des droits de l'homme au Sénégal de 1995 à 1998. L'expérience de M. Tchoy combine un travail sur les droits de l'homme sur le terrain dans des situations complexes post-conflit, une expérience approfondie de la protection des civils, la coopération interinstitutionnelle de l'ONU et des approches du développement fondées sur les droits de l'homme, ainsi qu'un soutien au mécanisme des droits de l'homme de l'ONU. Il a une large connaissance de diverses questions complexes relatives aux droits de l'homme à l'ONU et au sein d'ONG. Il possède également une expérience pratique de la gestion de la réponse aux crises. Juriste de formation, M. Abdelaziz Tchoy est de nationalité sénégalaise, marié et père de famille.
Alors, M. Abdelaziz Tchoy, vous avez effectué une enquête du 17 au 28 janvier dernier à Yumbi. Qu'est-ce qui a motivé cette mission d'enquête ?
Merci de l'occasion que vous me donnez de m'expliquer un peu plus en détail sur le rapport qui a été rendu public cette semaine. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a déployé du 16 au 26, comme vous le savez, une mission d'enquête spéciale dans le territoire du Yumbi, province de Maïdombé, suite à des informations que nous avions reçues et qui faisaient état d'affrontements interethniques de grande ampleur dans cette région au cours du mois de décembre 2018 entre les communautés Batende et Banounou. Avant cette enquête, nous y avions envoyé, malgré le fait effectivement que toutes les ressources étaient mobilisées pour les élections, nous y avions envoyé une mission d'évaluation rapide du 27 au 28 décembre qui avait atterri à Yumbi, à Bolobo, mais n'avait pas pu atterrir à Bogende parce que Bogende était vide. Bon, il y a eu un survol pour faire une évaluation rapide de situation. Cette équipe n'était pas partie seule, elle était également partie avec des humanitaires qui ont pu apporter des éléments nécessaires pour pouvoir soutenir la prise en charge médicale et également alimentaire. Ça nous a permis de mieux préparer la mission d'enquête. Je dois souligner effectivement qu'il y a eu une bonne collaboration aussi cette fois-ci des FRDC qui ont échangé beaucoup d'informations avec nous, qui ont beaucoup coopéré et ça nous a permis effectivement de pouvoir déployer un régiment du bataillon ghanéen sur le terrain pour pouvoir sécuriser l'espace en parfaite coordination avec les FRDC et la PNC. Ça a permis de calmer la situation afin de nous permettre de pouvoir nous déployer. Donc nous sommes arrivés sur le terrain le 17 pour commencer le travail jusqu'au 26 janvier. Ça a permis de pouvoir créer un climat qui permettait de pouvoir, en toute sécurité, en toute confiance, interviewer des victimes, des témoins oculaires et toutes les personnes, toutes les sources qui étaient en mesure de pouvoir apporter des informations.
Et succinctement, qu'est-ce qui ressort de votre enquête ?
Alors, l'enquête a permis d'établir qu'entre le 16 et le 18 décembre 2018, après plusieurs semaines de tensions liées en conflit foncier opposant les communautés Batende et Banounou autour du lieu d'enterrement d'un chef coutumier Banounou, des attaques contre les populations Banounou dans les localités de Yumbi, Bongende et Kolode ont fait au moins 535 morts, 111 blessés, plus ou moins 967 bâtiments, principalement des habitations, mais aussi des églises, des écoles et des centres de santé ont été pillés ou détruits. Donc nous avons pu également identifier des sites d'enterrement.
Comment ont réagi les autorités compétentes après ces différentes attaques ?
Les autorités compétentes, je devrais dire que j'ai mentionné le niveau de coopération des militaires, des FRDC. Donc je dois même dire que la première alerte est venue des FRDC, qui ont alerté la MONUSCO qu'une situation avait eu lieu dans cette partie de la province du Maïdombé. Donc l'information initiale est venue des militaires qui en ce moment-là s'apprêtaient FRDC à déployer des gens sur place. Nous avons contacté toutes les autorités. Le gouverneur de la province est venu spontanément rencontrer la MONUSCO pour expliquer ce qui s'était passé, partager déjà des documents avec nous et partager effectivement des éléments d'information qui ont été également pris en considération dans le cadre de l'enquête qui a été menée. Nous avons aussi été en contact très, très étroit avec l'auditorat militaire, notamment au niveau de l'auditorat militaire de garnison de Bandundu, où nous avons une équipe à Bandundu qui a pu échanger et travailler avec l'auditorat militaire aussi, qui y avait dépêché une mission d'enquête rapide et qui est revenue à peu près avec les mêmes types de conclusions. Je sais que l'auditorat militaire a beaucoup d'informations. Ce que nous avons mis ici, je pense que l'auditorat militaire a le double de ce que nous avons en termes d'informations pour dire qu'il y a eu aujourd'hui, s'il faut prendre des actions diligentes et pour accélérer, initier une procédure judiciaire, ça ne devrait pas être très très compliqué. D'autant que des arrestations ont déjà eu lieu, mais il faudra des enquêtes un peu plus approfondies pour situer avec certitude et précision les responsabilités et le rôle des uns et des autres.
Et quelle a été votre méthodologie de travail pour arriver à rétablir les faits ?
Alors, nous avons une méthodologie qui est très conservatrice et très, très rigoureuse. Nous avons procédé à des interviews. Nous avons rencontré des victimes, nous avons été dans les centres de santé où les gens blessés se trouvaient pour les interviewer. Interviewer des témoins oculaires, interviewer des deux côtés. Hein. C'est important aussi d'interviewer à la fois des gens de la communauté Batende, mais également Banounou, pour avoir leur version des faits. Il est vrai que bon, la coopération n'a pas été du niveau qu'on pourrait attendre de la part des Batende que nous avons trouvés sur place, qui était un peu plus fermé, un peu plus méfiant, un peu plus réticent à réellement s'exprimer. Mais toujours est-il que nous avons mené des entretiens individuels, des entretiens de groupe, mais également des entretiens avec les éléments de la PNC, les éléments des FRDC, les sources médicales, l'Église, donc tous les acteurs et toutes les sources qui avaient connaissance de la situation et qui pouvaient apporter quelque chose. Les interviews ne se sont pas seulement limitées à Bongende. Bongende était pratiquement vide, hein, et Kolo et Yumbi. Mais nous avons également interviewé des gens ici à Kinshasa. Parce que vous avez, il y a un grand nombre de membres des deux communautés qui sont aussi présents à Kinshasa. Donc, certains sont blessés, sont venus se soigner, d'autres viennent se cacher. Donc nous avons pu discuter avec beaucoup d'entre eux et de manière à pouvoir faire les recoupements. Parce que nous partons d'informations initiales, de certaines sources que nous pensons crédibles, mais nous montons et nous avons des niveaux de standards de vérification. Croiser ce que les gens disent pour voir le caractère vraisemblable ou non. Vous verrez toujours dans nos rapports, vous nous entendrez dire il y a des raisons de croire que. Donc c'est basé sur l'analyse que nous faisons des différents témoignages que nous avons reçus et les recoupements. On confronte deux sources, mais il est important d'avoir trois sources différentes qui sont indépendantes les unes des autres, de manière à pouvoir recouper tout ça. Nous avons eu accès aussi à des photos, à des vidéos, à des documents. J'ai dit par exemple que le gouverneur de province nous a donné des vidéos, il nous a donné sa version des faits, les versions des gens de l'administration locale. Nous avons tout rassemblé pour aboutir à cette conclusion-là.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Abdelaziz Choy. Avec lui, nous décryptons le dernier rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation à Yumbi. Monsieur Abdelaziz, vous avez affirmé dans votre rapport que les tueries enregistrées à Yumbi pourraient être assimilées à des crimes contre l'humanité. Que s'est-il passé concrètement pour parler des crimes contre l'humanité?
Écoutez, nous avons dit de façon très claire, parce que nous avons analysé le cadre juridique applicable à cette situation. Vous voyez que nous parlons toujours d'actes de violence, nous parlons de situations de violence. Donc nous analysons. Ce que nous disons dans le rapport, c'est que nous parlons du cadre juridique applicable. Nous parlons du droit international des droits de l'homme, nous parlons du droit international humanitaire qui n'est pas applicable dans ce cas de figure. Je parle bien du droit international humanitaire. Nous regardons le droit pénal international. Je dois rappeler que la République démocratique du Congo a harmonisé sa législation nationale avec le statut de Rome. Donc, il y a des incriminations qui sont dans le statut de Rome que vous retrouvez dans le corpus juridique national. Donc c'est une remarque que je voudrais faire. Ouais. Ce que nous disons sous cet angle-là, nous disons les actes de violence commis au cours des 4 attaques que nous avons documentées pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Si certains éléments constitutifs sont établis, ça veut dire que nous ne fermons pas la porte. Nous, c'est ce que nous mettons en avant. Alors, l'institution qui doit établir les éléments constitutifs, c'est la justice, évidemment. Voilà. Une enquête judiciaire devra déterminer si les éléments constitutifs sont établis, sans préjudice de toute autre qualification que la justice pourrait retenir. Mais non, il appartiendrait à la justice de déterminer qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Nous ne sommes pas, nous, la justice, pour dire concrètement, donner une qualification définitive sur une situation. Mais nous disons que ça pourrait...
Donc, c'est une probabilité. Justement, dans ce rapport, vous parlez de plus de 800 personnes tuées, en majorité de la même communauté, les Banounous. Peut-on tout de suite qualifier ces tueries de génocide ou de tentative de génocide?
Vous me posez une question difficile. Je disais simplement ceci. Par exemple, je vous donne un exemple. L'article 7 du statut de la Cour pénale dit « Tout acte s'inscrivant dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. » C'est comme ça pour les crimes contre l'humanité. Vous retrouvez le même type de définition, un peu plus moins compliqué pour le crime de génocide. Mais comme je dis, en réalité, ça pourrait l'être, mais il appartiendra à la justice de retenir cette qualification-là. C'est résulte de l'enquête qui a été menée, qu'effectivement, il y a des éléments constitutifs qui, de façon irréfutable, établissent effectivement qu'il y avait un élément intentionnel, qu'il laisse penser effectivement que le but était d'exterminer ou en partie ou en totalité un groupe ethnique.
Et au regard de tout ce qui s'est passé à Yumbi notamment, est-ce qu'on peut parler des crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, par exemple?
Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai parlé des crimes contre l'humanité. Mais la compétence de la Cour pénale internationale est basée sur le principe de complémentarité. Les juridictions nationales congolaises sont compétentes pour connaître de ces types d'infractions de façon très claire. Donc, c'est des crimes très graves comme j'ai dit encore une fois, la législation nationale a été harmonisée avec, avec le statut de la Cour pénale internationale, le statut de Rome, excusez-moi. Donc, la justice congolaise a rendu des décisions sur des crimes internationaux. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, par viol, par meurtre, par persécution, et d'autres types de caractérisations que la justice a utilisées pour asseoir son incrimination. Je pense que c'est pas bien compliqué. Vous avez des juges qui sont très compétents,
oui,
et qui connaissent très très bien, d'excellents juristes qui sont capables de réellement analyser la situation et d'initier les poursuites nécessaires et de rendre les décisions en retenant les types de qualifications qui s'y est.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdelaziz Choy. Avec lui, nous parlons des tueries enregistrées à Yumbi, dans la province de Maïndombe. Monsieur Abdelaziz, d'après vos enquêtes, comment se sont déroulées les attaques?
Alors, les attaques, le modus operandi, c'est justement, nous parlons d'attaques généralisées ou systématiques, parce que si vous regardez bien, il y a une similarité dans la façon dont les attaques ont été menées. Il ressort de nos enquêtes que plusieurs centaines de personnes ont envoyé les localités de Yumbi, Bongondé et Kolode. Ces personnes-là étaient équipées d'armes à feu, d'armes blanches et d'essence. L'essence n'est pas à portée de main. Évidemment, on peut comprendre que dans ces localités-là, où le moyen de déplacement, c'est par le fleuve, pratiquement tout le monde a des pirogues. Et évidemment, les gens ont tout le temps du carburant avec eux. Mais que vous preniez du carburant pour aller attaquer et que vous preniez des armes à feu, c'est qu'évidemment, il y a quelque part, ce n'est pas spontané. Ça a été préparé. Les assaillants ont utilisé des fusils de chasse contre les personnes qui tentaient de fuir. Donc, ils n'ont pas laissé aucun salut à ceux qui cherchaient à s'enfuir. Ils ont même coupé les pirogues, les cordes, pour empêcher que les gens ne puissent battre en retraite et s'enfuir avec leurs pirogues. Ils ont brûlé les maisons, souvent, alors que les personnes s'y trouvaient. Les personnes blessées par balles ou par les incendies ont pour la plupart été achevées par armes blanches. Les corps de nombreuses victimes ont été également mutilés. Ça, c'est un fait assez marquant que nous retrouvons dans d'autres espaces ici en RDC, notamment dans le Kasaï. Oui. On l'a vu aussi dans les Kivu. Peut-être des anthropologues pourraient dire, hein, parce que c'est pour ça que nous avons quelquefois avec nous des experts légistes, mais qui ont une spécialité en anthropologie, qui peuvent nous dire certains actes pratiqués sur les cadavres, si ces actes-là ne relèvent pas de pratiques magico-religieuses. Par exemple, le fait d'emporter la tête, le fait de prendre les organes génitaux. Donc ce sont des aspects qui nécessitent une analyse. Et si c'est nécessaire, oui, nous avons des compétences, des experts dans ce domaine-là qui pourraient donner un appui. Mais il est important, ça permet de donner un peu plus de lumière à véritablement ce qui s'est passé.
Justement, quels sont d'après vous les auteurs présumés de ces différentes attaques? Avez-vous pu rétablir des responsabilités dans votre rapport?
Écoutez, le rapport identifie des catégories d'auteurs, mais nous ne pouvons pas avoir un certain niveau de précision. Parce qu'en réalité, il y a des aspects, des éléments liés à la confidentialité en ce qui concerne les victimes, mais quelquefois aussi en l'absence d'une certitude de mettre en avant avec précision des noms d'auteurs. Donc, nous disons simplement qu'il y a, en termes d'organisation, au niveau d'implication des chefs coutumiers et des autorités, implication des chefs coutumiers. Ce que nous reprochons un peu aux autorités provinciales, c'est d'avoir peut-être eu connaissance d'une situation, que la situation aurait pu dégénérer et ne pas avoir pris d'action pour empêcher que cela ne se fasse. Oui. Donc c'est un peu à ce niveau-là. Mais principalement, l'implication peut-être directe que nous avons pu identifier, c'est au niveau des chefs coutumiers. De façon individuelle, des agents de la PNC ont été impliqués, mais c'était des agents qui étaient déployés sur place. Il y a aussi des militaires qui ont été impliqués, mais ça ne procédait pas d'un engagement venu de la part des unités en tant que tel, mais c'était un engagement individuel. Pour certains, c'est une participation aux côtés des nounous pour défendre peut-être la communauté, où certains ont tenté effectivement de dissuader les assaillants en tirant l'air
et les postes ont été attaqués. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on relève. Les postes des FARDC, surtout de la force navale, ont été attaqués, par exemple, à certains endroits. Donc, c'est quelque chose qu'il faut relever.
Et quelles sont les violations et atteintes aux droits de l'homme que vous avez documentées?
Alors, je disais qu'en réalité, vous verrez dans les rapports que nous faisons très peu mention aux violations des droits de l'homme.
Ouais.
Nous parlons beaucoup d'actes de violence. Nous utilisons une terminologie tirée peut-être du droit pénal normal que nous utilisons. Parce qu'en réalité, jusqu'à présent, nous parlons d'actes de violence. Alors, on aurait pu en parler s'il y avait la présence d'un groupe armé. Nous n'avons pas identifié l'existence d'un groupe armé, c'est-à-dire, comme on le voit à l'est du Congo ou ailleurs. Nous n'avons pas vu également une implication directe des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire FARDC comme entité ou la PNC comme entité. Ce qu'ils ont fait comme membres de ces deux entités, l'ont fait à titre individuel ou simplement ont été victimes des assaillants pour avoir voulu peut-être défendre des membres d'une communauté.
Face à de tels conflits, les femmes et les enfants en sont généralement les premières victimes. Avez-vous répertorié des violations liées au genre?
Ah oui, ça, je crois que nous avons parlé de violences sexuelles. Nous en avons beaucoup parlé d'ailleurs. Il y a des cas de viol. Les gens qui ont été, les femmes et les filles ont été affectées par les violences au même titre que les hommes. Donc, mais pour les femmes et les filles, bon, d'abord, les types de violences, c'est surtout des violences sexuelles, mais surtout basées sur le genre. Elles ont été attaquées, elles ont été frappées par les violences au même titre que les hommes. D'après les statistiques que nous avons obtenues, pour la cité de Yumbi, les femmes et filles représentaient quasiment la moitié des personnes tuées. Donc, elles ont payé un lourd tribut au cours de ces attaques, des attaques du 16 décembre, par exemple. Et selon les sources aussi médicales que nous avons pu rencontrer, elles représentaient environ un tiers des personnes blessées qui ont reçu des soins dans les centres de santé de la zone. Donc, les femmes et les enfants auraient été tués beaucoup dans l'incendie aussi des maisons où ils s'étaient réfugiés, tandis que les autres auraient été tués par balles. D'après plusieurs sources, les assaillants auraient coupé ou ouvert le ventre de femmes, je vous passe les détails. Et c'est des sortes de mutilations, hein, c'est des actes barbares et dégradants, ceux qui ont été pratiqués, par exemple, sur des femmes enceintes. Au chapitre des violences sexuelles, il y a eu des mutilations sexuelles que nous avons notées. J'ai parlé ici que les assaillants ont coupé des seins, des parties génitales de femmes. Ils l'ont fait aussi avec les hommes. C'est horrible, si je peux m'exprimer ainsi. Je crois que ça atteint un certain niveau d'atrocité qui défie carrément le bon sens. Hein. Il y a aussi deux femmes ont été victimes de viol par insertion de flèches dans les parties génitales au cours de l'attaque de Yumbi. Ces femmes ont bénéficié quand même d'une prise en charge médicale. Je peux en citer d'autres, mais globalement, c'est juste pour illustrer les types de violences sexuelles liées au genre que nous avons documentées. Il y a eu des allégations aussi de viol collectif d'une femme par plusieurs assaillants au cours de l'attaque à Bongende. Ça a été aussi rapporté.
Et combien de tombes ou de fosses communes que vous avez répertoriées dans les différentes localités où il y a eu des attaques?
Nous en avons identifié environ 59 sites d'enterrement, dont 15 tombes communes. Quand on a parlé de tombes communes, certains ont dit qu'il y a une volonté de dissimulation ou de minimiser. Ce n'est pas le cas du tout. Nous l'avons fait simplement pour... dans une volonté de différenciation. Parce que ailleurs, dans certains endroits, ce sont les bourreaux qui creusent des fosses pour faire disparaître les traces de leur sale besogne. Et c'est l'idée qui a toujours, et dans beaucoup de cas, accompagné l'évocation des fosses communes.
Oui.
Voilà. J'ai bien dit, quand j'ai été interrogé par la presse, j'ai dit fosses communes ou, si vous voulez, des tombes communes. Les tombes ont été creusées par les parents des victimes ou par la Croix-Rouge locale pour éviter que les restes humains ne soient dévorés par des chiens ou simplement pour que les corps ne puissent rester en état de putréfaction en l'air. C'est dans un souci peut-être de préserver un peu plus l'environnement. Mais il n'y a eu aucune volonté réelle de dissimuler les preuves des tueries à grande échelle qu'il y a eu là-bas.
Voilà. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais la toute dernière question. Réagissant à votre rapport, les autorités congolaises affirment attendre les résultats de l'équipe d'enquête diligentée par le président de la République. D'après la ministre congolaise des droits humains, les coupables répondront de leurs actes, quelle que soit leur fonction qu'ils occupent. Que recommandez-vous en définitive?
Nous saluons l'intérêt que le président Tshisekedi accorde à cette situation. Je crois qu'il l'a clairement expliqué, il a manifesté son inquiétude. Et je pense qu'il a pris un engagement fort de faire la lumière, toute la lumière sur véritablement ce qui s'est passé. J'avais dit et indiqué ici que la justice militaire était en train d'enquêter et qu'elle a en sa possession beaucoup d'informations aujourd'hui qui peuvent permettre d'initier des poursuites. Donc, globalement, ce que nous avons recommandé au gouvernement, c'est de renforcer la présence des institutions. Nous avons déploré l'absence de l'État dans la zone. C'est un facteur, ce n'est pas seulement là, c'est un peu partout sur le territoire congolais. Et l'absence de l'État donne libre cours à la naissance ou au foisonnement de certains types de tensions intercommunautaires autour d'intérêts de groupes ou simplement liés à l'accès aux ressources et surtout à l'accès à la terre. Donc, des types de conflits de ce type, il y en a beaucoup sur le territoire congolais. Et Dieu seul sait qu'est-ce qui pourrait les déclencher. Donc, c'est extrêmement important de prendre la situation à bras le corps. Il est important que la présence des institutions étatiques bien sûr soit renforcée dans le territoire de Yumbi, mais tout en garantissant leur neutralité. Ce qu'on a vu, c'est que la présence des quelques policiers qui étaient sur place a pu donner. Donc ils s'alignent en fonction de leur intérêt, de leur appartenance à l'une ou l'autre communauté. Renforcer également les moyens de la police, notamment en augmentant le nombre d'officiers. Il y a eu un fort déploiement de la police d'après les informations que nous avons reçues. Nous allons essayer de continuer à monitorer la situation pour voir comment ça va se passer. Il faut aussi renforcer les capacités logistiques, humaines et matérielles de la justice civile et militaire, en particulier les cellules spécialisées dans les réponses aux crimes contre les enfants et les violences sexuelles. Il faut initier surtout des efforts de réconciliation entre les deux communautés. C'est comme ça qu'on peut initier des poursuites, mais également travailler à la réconciliation des communautés divisées. Il faut adresser les causes du conflit. Tant qu'on ne les aura pas adressées, le conflit va peut-être se calmer, mais attendra une autre occasion pour ressurgir encore. C'est une forte recommandation que nous faisons. Il faut poursuivre aussi les efforts pour conduire des enquêtes indépendantes. Ouais. Donc c'est ce que nous avons dit, et aussi remédier aux situations de détention illégale documentées. Il y a des détentions illégales là-bas qu'il faut aussi régler. Il faut prendre des mesures d'administration provisoire du territoire de Yumbi, ainsi que des mesures conservatoires contre les autorités qui, de près ou de loin, ont pu... L'absence d'action a pu peut-être conduire à ces violences-là que nous avons connues.
Monsieur Abdelaziz Choy, je rappelle que vous êtes le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été présentée avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Tina Salama. Michel Kifindangoy vous l'a présenté. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci de rester fidèle à la fréquence de la paix. Au revoir.